J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire du deuil, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui ne veut surtout pas faire son deuil. Faire son deuil, mais quelle horreur! Faire son deuil comme on fait sa valise ou comme on fait un risotto, pire encore, comme on fait la Thaïlande ou comme on fait l'Italie. Comme une case cochée sur sa to-do. Mais quelle violence, quelle indécence! Elle a perdu l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle l'a perdu beaucoup trop tôt, mais elle vit encore avec lui. Elle lui parle comme s'il était là. Et quand elle sort du boulot, elle prend encore son portable pour lui dire qu'il lui manque, qu'il lui a manqué toute la journée, qu'il est fou ce monde, qu'il est mal fait ce monde, dans lequel on passe plus de temps avec ses collègues de bureau qu'avec ses amours ou ses enfants. Elle ne veut pas rencontrer un autre homme, alors pas du tout. Un autre homme, ce n'est même pas envisageable, puisqu'il est encore là, bien plus présent que tous les prétendants. Pâle copie, encore même pas. Même copie, c'est encore trop gentil. Même pâle, c'est encore trop précis. Les autres ne sont tout simplement pas. Mais lui, il est là, encore là. Comme elle les comprend, ces mots de Brassens dans sa chanson le 22 septembre, « Que c'est triste de n'être plus triste sans vous ». Ce sont les mots de la fin d'un amour. Mais elle, elle aime encore. Elle est triste d'avoir été si heureuse avec lui, alors elle garde sa tristesse comme elle garde son amour, et cette tristesse, elle la change en présence. C'est à lui qu'elle raconte ses peines et ses joies, c'est à lui qu'elle parle lorsqu'elle se maquille le matin devant la glace, et c'est à lui encore qu'elle prépare un café bien serré pour le petit déjeuner. L'autre jour, son ami lui a lâché le gros mot « deuil pathologique ». Tu devrais faire quelque chose, consulter peut-être. Mais elle, elle n'en ressent pas le besoin. Elle fait déjà quelque chose puisqu'elle vit avec lui. Ce serait le contraire. Ce serait de passer à autre chose qui lui semblerait pathologique. D'ailleurs, elle ne va pas mal. Elle travaille bien. Elle voit des amis. Elle passe toujours autant de temps dans des expos, dans des musées. Mais avec lui, avec sa présence bienveillante au-dessus de son épaule. Alors bien sûr, il y a le regard des autres, elle n'est pas aveugle. Mais tant qu'il reste son regard à lui, ça ne la dérange pas. Elle ne sait vivre autrement que de vivre avec lui. C'est sa manière de vivre son deuil. Alors, qui a raison ? Elle ou ses proches qui s'inquiètent pour elle ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir le docteur Alain Sautreau, médecin psychiatre, spécialiste notamment de l'accompagnement des endeuillés, auteur d'un livre incontournable sur le sujet, « Vivre après ta mort, psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. Alain Sautreau donc, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil éternel de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette difficile question. Qu'est-ce qui distingue un deuil normal d'un deuil pathologique ? Comment bien vivre le deuil? Et vous allez le voir, en tout cas j'espère, on peut parler de deuil d'une manière pas trop triste.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Alain Sautreau.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté cette étonnante invitation. C'est vrai que parler du deuil en pleine vacances de Noël, c'est bizarre. Mais je dois avouer que je vous ai invité parce que j'avais adoré votre livre « Vivre après ta mort, psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. Et comme vous le savez, mais je préfère le dire aux auditeurs, bah, j'étais tombé dessus alors que moi-même je vivais un deuil. Et surtout que j'écrivais mon livre « Vivre avec son passé » qui se concluait par la question du deuil. Et j'avais été vraiment très très sensible à votre approche du deuil. Alors on va commencer directement. Est-ce que ça existe selon vous, qui accompagnait les endeuillés depuis près de 30 ans dans votre cabinet à Bordeaux, la différence entre un deuil normal et un deuil pathologique?
Oui, bien sûr, ça existe, d'autant plus que en l'espace des 10 dernières années, il y a eu une reconnaissance, enfin, de la communauté scientifique internationale, de l'existence d'un deuil pathologique qui s'est D'accord. appelé un deuil prolongé. Avant, on appelait ça deuil compliqué, deuil pathologique, deuil traumatique. Moi, dans mon livre qui a été écrit avant ces classifications, ouais, je parlais de deuil compliqué ou deuil pathologique. Et en fait, c'est le terme de deuil prolongé qui s'est installé, qui a repris en fait la terminologie qui avait été proposée par la principale chercheur au monde, qui avait remarqué quelque chose de fondamental. C'est que le deuil pathologique n'a pas de symptôme particulier. Ouais. Le symptôme particulier, c'est que ça se prolonge trop longtemps.
C'est ça. Ça veut dire qu'il y aurait un moment où c'est plus l'heure de pleurer, quoi. Comme dans la Bible, je crois, il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer.
Oui. Alors, le problème, c'est que dès qu'on parle des délais du deuil, ouais, on est tout de suite dans un sujet tabou.
Tout à fait.
Je peux vous raconter une anecdote personnelle. Au début où je me suis formé dans le deuil, dans les années 90, j'avais participé à un très grand congrès américain de psychiatrie et il y avait un symposium consacré au deuil. Et alors, ça commençait On était 100, 150 personnes, et c'était un QCM. Il fallait dire, selon vous, combien de temps dure le deuil. Alors, il y avait ceux qui disaient 6 mois, moi j'avais levé la main un peu bêtement, il y avait ceux qui disaient 1 an, voilà. Et puis, alors, tout le monde rigolait de plus en plus, et puis la bonne réponse, c'était...
On se marre bien dans ces congrès.
Voilà. La bonne réponse, c'était toute la vie.
Ah ouais.
C'était il y a 30 ans, et c'est totalement faux. On considère actuellement que quelqu'un doit avoir repris le cours de sa vie en fonctionnement normal,
ouais.
Ce qui n'a rien à voir avec la notion de présence de nostalgie, présence de souvenirs, présence de la joie de l'avoir connu. Ça, c'est éternel, effectivement.
Ouais.
Mais on considère qu'il faut au maximum 2 ans.
D'accord.
Quelqu'un qui n'est pas... Alors moi, j'ai toujours la même expression avec mes patients. Je leur dis, on va pas regarder l'intensité de la douleur, parce que l'intensité de la douleur, elle dépend de tellement de choses que vous seul êtes le dépositaire de cette intensité.
Ouais.
On va regarder si vous êtes passé ou non de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de redescendre ? Voilà. Et on considère que, en principe, au bout d'1 an, il faut être sur la route qui redescend dans la vallée normale. Et compte tenu qu'il y a des décès qui sont quand même particulièrement complexes, hein, les décès de jeunes enfants, les décès par les attentats, les décès par homicide, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une zone de doute entre 1 an et 2 ans.
D'accord. Alors, il y avait un chapitre que j'avais beaucoup aimé dans votre livre, c'est les comportements néfastes, ceux qui empêchent de bien vivre son deuil. Et dans les comportements néfastes, il y a l'absence ou l'insuffisance d'évocation du défunt. Donc, on comprend très bien que, évidemment, quand vous accompagnez les endeuillés, c'est pour qu'ils pensent de manière pas trop douloureuse au défunt et surtout pas qu'ils l'oublient, évidemment. Mais il y a aussi l'inverse, l'excès d'évocation du défunt. Et puis, il y a aussi l'inhibition des activités normales de survie et de plaisir. Alors, comment on fait pour doser, finalement, si on a deux comportements néfastes qui sont d'un côté l'absence d'évocation du défunt, de l'autre côté l'excès d'évocation?
Alors, vous le présentez très bien comme une sorte de d'antagonisme absolument incompatible, mais en fait, ce sont les deux faces de la même pièce.
Ouais.
C'est-à-dire que cette pièce, c'est la pièce émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le deuil, de toute façon, à partir du moment où vous êtes attaché à quelqu'un, c'est-à-dire que vous ne parlez pas d'un mort que vous avez vu à la série télé d'hier soir, non, vous parlez de quelqu'un auquel vous étiez fondamentalement attaché, de toute façon, il va y avoir douleur. Le deuil, ça veut dire douleur, dolorer la douleur.
Oui.
Donc, on comprend bien que face à cette douleur, l'individu normal, vous, moi, normal, hein, on ne parle pas du tout des malades, on parle de l'homo sapiens, l'individu normal va devoir s'adapter. Et il va s'adapter avec des comportements qui peuvent être très utiles au tout début, par exemple aller régulièrement au cimetière, prendre des habits de deuil, avoir un mode de vie d'endeuillé, parce que ça va servir à canaliser, fluidifier cet instant de très grande émotion. Mais cette émotion, elle va devoir retrouver son cours naturel d'une douleur humaine normale depuis le début de la vie. Hein, c'est même pas le début de l'humanité, c'est le début de la vie. On comprend du coup que si un comportement qui a eu lieu au tout début, par exemple dans le premier mois, est toujours là, intact, au bout de 2 ans,
voilà.
Là, il y a un problème. Et c'est tout ce problème des délais du deuil, c'est tout ce problème du chemin. Moi, j'aime bien parler de chemin de deuil tout à l'heure, où vous avez commencé en disant est-ce qu'on fait son deuil comme on fait un risotto.
Ouais.
Alors, on fait un deuil à son allure, à la condition que le chemin aille vers le mieux.
Peut-être qu'on pourrait dire, pour revenir sur cette expression « faire son deuil », c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que thérapeute, que médecin psychiatre, mais peut-être on pourrait dire, il s'agit pour valoriser l'expression, au fond, de faire quelque chose de ce qu'a été notre histoire, de faire quelque chose de ce qu'a été notre relation, et aussi de faire quelque chose de ta mort, finalement.
Oui, alors le faire son deuil, c'est pas tant ce mot-là qui pose problème dans la terminologie française, c'est plutôt le travail de deuil.
Ouais, ouais.
Parce que le travail, ça voudrait dire que on se lève le matin et on se met au travail.
Il y a des exercices, quoi.
Voilà, il y a des exercices, puis si vous les faites pas, vous êtes le mauvais élève, quoi.
Ouais.
Alors que, et ça c'est très important à comprendre, c'est que le deuil est un processus naturel.
C'est ça, bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire qu'un enfant de 1 an qui n'a pas le langage fait un deuil de son parent. Le deuil est un processus naturel et il faut même dire que la première organisation du deuil, qui sont les rites funéraires, c'est 70 000 ans avant Jésus-Christ, et on date le début de l'Homo sapiens. Début de l'Homo sapiens, c'est les premiers rites funéraires et les premières tombes.
Donc finalement, ça veut dire que vous, votre travail, c'est d'accompagner ce qui, à la base, est naturel, en fait. Devrait être naturel.
Voilà, c'est un petit peu... l'idée me vient, là, avec vous en direct, c'est, vous savez, c'est un petit peu comme les obstétriciens qui accompagnent quelque chose qui est 9 fois sur 10 parfaitement normal, mais on va faire attention aux 10% où ça se passe pas bien. Le deuil, c'est ça. Et... En revanche, moi, je n'accompagne pas les gens qui vont bien. C'est-à-dire que je vais donner des conseils. Ouais. Vous avez maintenant, avec grâce à vous, grâce aux médias, grâce aux livres, il y a des gens qui ont vécu des deuils épouvantables, qui me téléphonent à J+3, mon mari s'est pendu, mon enfant est mort d'une fausse route. Et je vais les rencontrer pour leur dire une chose, c'est faites confiance, vous êtes équipés pour ça, mais on va se revoir régulièrement pour voir quelle est votre évolution. D'accord. Et 2 fois sur 3, je ne les revois pas. C'est-à-dire que malgré l'incroyable intensité de la douleur, la nature humaine...
La vie, quelque part. La vie.
Oui, alors la vie génétique, la vie, ce qui nous constitue, va nous permettre d'absorber ce stresseur incroyable. Parce que, contrairement au trauma, ça c'est une des grandes différences avec le trauma, c'est que le trauma n'est pas obligatoire dans la vie. Il y a des gens qui ont peu de trauma ou pas de trauma. Ouais. Le deuil est obligatoire, il faut mourir très jeune pour ne pas avoir vécu de deuil. Donc c'est vraiment une expérience humaine normale, mais qui peut malheureusement se gripper, achoper, prendre un chemin chaotique et créer une maladie. Si vous voulez, on peut parler de comment on définit une maladie.
On va en parler juste après, mais avant ça, Alain Sautereau, je voudrais vous faire écouter un autre thérapeute que j'aime bien, qui est assez bon aussi sur la question, et qui s'appelle Georges Brassens.
En souvenir de vous, il a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on rôtir 4 châtaignes. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous.
Alors Alain Sautereau, je vous ai vu un peu écouter, c'est triste de n'être plus triste sans vous. Lorsque Brassens chante ça, donc lui il parle d'une histoire d'amour, donc c'est le deuil d'une histoire d'amour, il veut dire qu'au fond, quelque part, quand on est plus triste de n'être plus triste, au fond, c'est vraiment fini. Et évidemment,
c'est un peu compliqué pour moi ça. Je préfère la définition de la nostalgie, qui dit que la nostalgie, c'est la tristesse d'avoir été heureux. Et ça, je trouve que ça correspond bien à la douleur du deuil.
Mais ça, il faut l'accepter, il faut vivre avec.
On n'avait pas le choix.
Voilà, c'est ça. Non pas, vous ne combattez pas ça.
Surtout pas.
Mais alors, dans ce cas, ça m'amène à une question plus complexe. C'est que, dans ce cas-là, vous évoquez la tristesse d'avoir été heureux. Oui. Et on se doute que finalement, on va plutôt réussir à vivre le deuil si justement on a été heureux, que ça a été une belle histoire, que malheureusement la mort est venue l'interrompre. Mais dans le cas où on a eu une histoire pourrie, quoi, où on a eu une relation très compliquée avec quelqu'un qui nous laisse en gros que des choses pénibles, ça doit être beaucoup plus dur de vivre le deuil dans ce cas-là.
Alors, bien sûr, mais 9 fois sur 10, les gens viennent pour une relation d'amour interrompue. Moi, je dis à mes étudiants, et je le dis rarement aux endeuillés, parce que quand ils viennent me voir, ils sont trop mal pour comprendre le sens de cette phrase, c'est que le deuil, c'est la seule histoire d'amour qui se termine bien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle se termine pas par la trahison, elle se termine pas par le mensonge, elle se traduit par la mort, dont vous savez qu'elle existe dès que vous arrivez sur Terre.
Ouais, vous êtes optimiste sur la mort, sur l'amour, après moi.
C'est pour ça que toutes les comparaisons avec le chagrin d'amour, le deuil de sa jeunesse, le deuil de son travail, de sa famille, les enfants qui s'en vont, etc. Ça n'a absolument rien à voir. D'abord parce que les gens sont toujours là, l'histoire continue. Et d'autre part parce que même dans le cas d'un chagrin d'amour, il va peut-être y avoir un épisode 2, 3 ou 4.
Ouais.
Donc le deuil, non. Le deuil, l'histoire est terminée au sens qu'elle n'a pas d'avenir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de souvenir.
Ouais.
Et ça, on pourra en parler. Mais je crois que ce qui convient le mieux, et j'ai pas oublié votre question sur les relations complexes, ce qui convient le mieux pour moi dans ce qu'on met dans le vocable travail de deuil, faire son deuil, c'est que le deuil, c'est une énigme à résoudre.
Ouais.
Il faut résoudre l'énigme selon laquelle notre vie a toujours un sens intact, sans la personne qui a tant compté pour nous.
Bah bien sûr. Et l'énigme, c'est l'énigme de la mort, qui est un scandale pour une conscience humaine. C'est la même énigme. Au fond, comment on construit sa vie ?
Alors pas tout à fait, parce que la mort, c'est un événement que vous ne rencontrerez jamais, ni moi. Ouais. Hein. Quand vous serez mort, vous ne serez plus là pour vous en rendre compte.
Voilà. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas se préparer à mourir, d'ailleurs, parce que personne ne nous a jamais raconté comment ça se passe.
Oui, il y a beaucoup de phrases magnifiques de littérature. Hein. La mort est un soleil qu'on ne peut pas regarder dans les yeux.
Ouais. Enfin,
il y a beaucoup de phrases très très jolies là-dessus. Et ça, c'est la mort. La question du deuil, c'est la question du vivre après.
Avec le manque.
Avec le manque, voilà. Et vous touchez du doigt, par ce mot que vous-même vous prononcez, le symptôme fondamental... pathognomonique, nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire significatif à lui tout seul du deuil, c'est le manque.
Comment vous dites, plateau quoi ?
Pathognomonique, c'est synonyme de la maladie.
Ça veut dire que c'est ça le vrai problème, en fait.
C'est ça le vrai problème, c'est le manque. Alors, je reviens à votre
question. Oui, très intéressant. Je vous interromps qu'on comprenne bien. En fait, j'étais sur une fausse piste, la mort, la philosophie, tout ça. Non, le vrai problème, c'est sensible. Comment je fais pour vivre avec ce manque ?
C'est ça. D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait morts. Hein. Un endeuillé dira toujours qu'il sent son défunt extrêmement profondément en lui, ce qui montre bien qu'il peut le faire parler. Je crois d'ailleurs dans votre livre, vous citez, si je peux me permettre, vous citez votre ami avec qui vous aviez un rituel littéraire amical.
Tout à fait,
amical.
Oui. Philippe Nassif, on peut en parler. D'ailleurs, il a écrit on a publié après sa mort un très beau recueil de ses articles qui s'appelle « La lutte initiale ». Voilà, c'est vrai.
Et vous racontez qu'à un moment donné, vous vous dites au fond, sur cette chronique que je veux écrire, ou que j'ai écrite, il la verra jamais, mais qu'est-ce qu'il aurait dit ? Et vous racontez très bien que vous savez ce qu'il aurait dit.
En tout cas, je l'interroge, oui.
Voilà. Moi, j'ai fait une expérience comme ça sur plus de 100 sujets normaux, alors normaux, hein, des étudiants, en leur disant, pensez à la personne qui vous manque le plus. Donc, le grand-père, le voisin, etc. Pensez à la dernière contrariété que vous avez eue avant de venir aujourd'hui me voir. Il pensait à la dernière contrariété, généralement, la place de stationnement, le retard, etc.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous aurait dit ? 9 fois sur 10, des personnes normales, n'ayant même pas conscience qu'elles ont un deuil, sont capables de vous dire avec un coefficient de certitude très élevé exactement ce qu'il aurait dit.
Et ça veut dire quoi pour vous ?
Ça veut dire que la présence de l'endeuillé est éternelle. Mmh. Et le deuil est une problématique de l'attachement. C'est pour ça que je parle de résoudre l'énigme du deuil, c'est résoudre la vie sans toi, alors que la vie continue depuis des milliers et des milliers d'années. Alors si je peux me permettre, je n'ai pas oublié votre première question.
Ouais. Hein ? C'est la question dure.
Comment on fait avec une relation pourrie ?
Exactement.
Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il n'y a pas de deuil. Salaud est mort et c'est très bien.
C'est vrai.
Donc, c'est un mort. C'est peut-être même un mort de vengeance. Et puis, l'autre cas, qui est le cas le plus fréquent que nous rencontrons, c'est l'ambivalence.
C'est ça. Donc, le premier cas, c'est bon débarras. Et le deuxième cas, c'est l'ambivalence.
Voilà. Et alors, l'ambivalence va être heurtée par quelque chose que nous avons tous un petit peu, au moins, tendance à faire, au moins momentanément. C'est l'idéalisation du défunt.
Ouais.
Et l'idéalisation du défunt, ça n'est pas possible.
Et surtout, c'est dramatique, parce que quand on idéalise un défunt qui, en plus, s'est mal comporté avec nous, on est mal barré pour bien vivre le deuil, en fait. Alors, est dans le déni, en fait.
Voilà, on est dans ce qu'on appelle la perte de sens, c'est-à-dire que le sens n'était pas là. Pour autant, on peut avoir été, l'exemple le plus classique, c'est les parents abuseurs, sexuels, on peut avoir été un papa abuseur épouvantable et avoir été un très bon papa par d'autres comportements. Mmh. Et il faut arriver à ce que l'endeuillé puisse faire son chemin intérieur, et là on peut les aider, en leur disant, celui que vous pleurez, c'est le papa que vous aimiez. C'est
d'accord,
pas l'autre.
Très bien.
Et cette ambivalence, c'est-à-dire en fait une forme d'équivoque, d'arriver...
Qui est la vraie vie, entre parenthèses, c'est souvent comme ça, la vraie vie ?
Alors, c'est la vraie vie, mais dans l'ensemble, les gens qui viennent consulter pour deuil avaient une histoire d'amour extraordinaire.
Oui, j'ai compris, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce cas du deuil difficile, parce qu'on a une histoire pourrie, comme vous le dites, je retrouve dans votre livre ce chapitre qui m'avait beaucoup intéressé, « Le difficile chemin de l'ambivalence mène au compromis », c'est un de vos titres, et le sous-titre « Respecter sans les accepter les choix, entre guillemets, du défunt ». C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire, là. C'est qu'au fond, il faut se dire, voilà, je fais le deuil d'une part de cette personne, peut-être la meilleure part, et l'autre part, bon débarras, et j'accepte que c'était un mélange, en fait.
Oui, alors les exemples, il y a des exemples très spectaculaires dans la littérature. Moi, j'ai soigné quelqu'un comme ça qui était la fille de l'occupant nazi.
Ah bah oui.
Voilà. Elle n'avait jamais connu son père, puisque son père était rentré en Allemagne à la fin de la guerre de 40. Mais elle avait une relation avec sa mère, et c'est quand elle perd sa mère que là se rentre la problématique d'attachement à sa maman. C'est quelle est cette maman qui faisait qu'elle se faisait traiter elle-même le déchet de la guerre quand elle était enfant.
Ah oui.
Est-ce qu'elle avait pu dire un jour à sa mère, mais regarde la vie épouvantable que tu m'as fait à cause de ton histoire d'amour avec l'Allemand. Voilà, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires comme ça. Comment on fait pour... Vous aviez une émission célèbre qui était avec Jean-Marie Cavada.
Oui.
Sur le fils Mesrine.
Oui, bien sûr.
Qui raconte qu'il entendait partout parler de... C'est la télévision, hein, c'est le public.
Ouais.
Il entendait parler partout de l'ennemi public numéro un qui se fait tuer dans une embuscade.
Mais c'est son père.
Et lui, il dit, mais moi, mon père, c'était ce magicien qui est arrivé le 24 décembre déguisé en Père Noël.
Ouais.
Pour m'apporter des cadeaux, il redisparaissait. Voilà.
Et donc votre travail, au fond, c'est d'aider les endeuillés à accepter l'ambivalence aussi.
C'est ça.
Bien c'est sûr. Beau hein, comme idée. Eh bien écoutez, on va faire résonner cette belle idée en écoutant Tame Impala. Eh bien, c'était Let It Happen et non pas Let It Be de Tame Impala.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Alain Sautreau, médecin psychiatre, spécialiste de l'accompagnement des endeuillés. Merci beaucoup, Alain, d'être là avec nous. Nous parlons de votre expérience, mais aussi de votre livre « Vivre après ta mort », sous-titré « Psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. Et je voudrais qu'on aborde maintenant la question des rituels de deuil. Pourquoi ils sont si importants? En quoi ils peuvent aider les endeuillés à faire avec le manque, car vous nous avez bien dit au début de l'émission que c'était ça la vraie question. Là où les philosophes parfois déplacent le problème en s'intéressant à la mort, à l'énigme de la mort, vous, thérapeute, médecin, psychiatre, vous dites mais non, en fait, la vraie question c'est comment on fait avec le manque.
Les rituels sont marqués par la temporalité par rapport au décès. Il y a énormément de débats, je ne sais pas si on s'en rend compte en France, hein, le congé d'essai. Hein, il y a eu tout un débat là-dessus, à partir de quand, quel type d'affiliation au défunt, on s'octroie quelques jours pour reprendre son souffle. Mais ça, c'est très occidental et très moderne, mais les rituels de deuil sont enfin date le début de l'humanité, 70 000 ans. Les premiers stigmates, c'est la tombe. À quoi sert une tombe ? Elle sert à se souvenir. Elle sert à marquer physiquement un endroit consacré aux défunts. Et elle sert à pouvoir la visiter, la revisiter, s'en éloigner et revenir.
Alors, je vous écoute, Alain Sautreau, mais je me permets de vous interrompre pour vous faire écouter un philosophe, Yankelevitch, qui parle précisément de ça, d'une manière qui, à mon avis, pourrait vous agacer un peu. C'est pour ça que je vous ai interrompu.
Je reçois une revue qui s'appelle « Revue de thanatologie ». Elle parle de tout sauf de la mort, à mon avis. Elle parle de la façon dont on a d'enterrer les gens, des problèmes qui se posent à propos de je sais pas quoi, moi, des enterrements, enfin, toutes sortes de sottises du même genre. Et ça, c'est pas la mort. C'est les rites des hommes, parce que les funérailles, c'est fait pour les vivants. Le mort, ça lui est bien égal. Qu'on le promène dans le corbillard, qu'on l'incinère, ou qu'on l'enterre, ou qu'on lui fasse n'importe quoi, ça, c'est des soucis pour les vivants. Justement parce que comme on ne sait pas quoi penser, et on ne sait pas quoi faire. Quand vous êtes devant une tombe, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a rien dans cette tombe. Il n'y a absolument rien, elle est vide. Le mort, il n'est pas là. Il est plutôt dans les souvenirs qu'il vous a laissés.
Alors Alain Sautreau, il parle un peu vite, Yankelevitch, là, non ?
Oui, enfin, c'est pas si choquant que ça, dans la mesure où il explique bien que, finalement, le mort, il est en vous. Il dit, il dit, j'ai pas besoin de la tombe.
C'est ça.
Mais il revient bien sur la notion de souvenir, d'intériorisation. En revanche, en faire une généralité, non, là, il se trompe. Il, éthologiquement, il se trompe. Hein. Ouais. Bien sûr que les rituels sont extrêmement étudiés. Ils sont très différents selon les cultures. Vous savez qu'il y a une culture très particulière qui est à Madagascar où on déterre les morts un an après. On les déterre.
C'est dingue.
Pour leur montrer les nouveaux venus. Hein, pour les intégrer dans l'histoire familiale des nouveaux venus. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais il y a tout le problème dans les rituels. Alors, je vous parle des problèmes jamais résolus, là. Hein. La participation des enfants au rituel de funéraire. Est-ce qu'un enfant doit aller voir le corps Il y a une étude extraordinaire qui a été publiée il y a quelques semaines qui raconte l'impact du Covid sur les rituels de deuil. Et on s'est rendu compte... C'est une étude qui a eu lieu en Amérique du Nord. On s'est rendu compte que du fait du Covid, beaucoup de gens sont morts chez eux. Et on croyait, jusque-là, que la notion de veillée funèbre, les visites de la famille qui duraient 2 ou 3 jours, qui étaient censées apaiser, intégrer le deuil, dans cette étude-là, montre qu'au contraire, ça a considérablement aggravé les réactions de deuil.
Ah, d'accord.
Conclusion des auteurs, nous ne savons plus être à côté d'un mourant chez nous.
Mais pourtant, il faudrait savoir, ce serait ça le mieux, non ?
On refait pas l'histoire, on peut pas revenir. En 1960, après la guerre, la majorité de la France était rurale et vous mouriez chez vous, l'arrière-grand-père mourait avec les 3 générations derrière. Donc je pense pas qu'on va revenir en arrière.
Mais dans votre pratique, vous voyez pas que ça se passe mieux quand on a accompagné le mourant, quand on a accepté au fond que la mort arrivait, quand on n'est pas dans ce déni auquel notre civilisation nous condamne.
Non, parce que c'est pas parce que quelqu'un décède à l'hôpital que vous avez coupé le lien avec lui.
D'accord.
Il y a eu des exemples d'ailleurs de gens qui se sont beaucoup plaints du fait que pendant le Covid, ils n'avaient pas pu aller visiter leurs défunts. Vous savez que les visites étaient quasi interdites, sauf bien pour sûr. Un seul apparenté. En fait, les quelques études qui ont été faites depuis, parce que maintenant on est quand même à 3 ans, montrent que ça a été un élément douloureux, mais ce n'était pas un élément suffisant pour créer du deuil pathologique. Donc le rituel peut être, et c'est là c'est intéressant, c'est que le rituel n'est pas unique pour toutes les cultures, tous les âges, tous les pays. Le rituel est adapté à la réalité de cette micro-société, de sa société ou de cette culture-là, mais que si vous en déviez trop, là ça se complique. Alors, je vais prendre un exemple.
Oui, très bien.
Le problème de la crémation, de plus en plus, pour des raisons diverses, la crémation se répand. Eh bien, moi, dans mon expérience, j'ai pu constater plusieurs fois l'immense différence entre une crémation qui conduit à une urne, qui est soit dans un columbarium, soit qui est à un endroit précis, qui, dans mon expérience, revient à un rituel funéraire classique de tombe, et la dispersion.
Bien sûr.
La dispersion, c'est beaucoup plus compliqué pour les familles. Vous allez dans le bassin d'Arcachon, vous allez dans les falaises d'Étretat, vous dites « Papa est là ». Ben, papa est là, moi je vois surtout des touristes, quoi. Je vois pas, il n'y a pas d'endroit, voyez-vous. Et c'est là où on voit que cette notion de rituel, on ne va pas revenir en arrière, mais il faut trouver une forme qui fait du bien à l'endeuillé. Et ensuite, ça rejoint la question d'à quoi servent les rituels. Eh bien, ces rituels vont servir à canaliser une émotion épouvantable. Mmh. Quand on a perdu quelqu'un, imaginez, moi, des gens, il y a des endeuillés qui viennent me voir. Ils ont, je pense à une veuve, elle avait connu son mari à 17 ans. Elle le perd à 66 ans. Elle a passé 50 ans avec lui, 17 ans sans lui.
Donc, comment faire avec ce manque?
Voilà.
Et donc, on voit. Et là, le rituel peut l'aider.
Le rituel va l'aider à canaliser ses émotions, à les apprivoiser, à les intégrer, à en faire quelque chose. Et puis, petit à petit, le rituel va diminuer. C'est pour ça qu'on me dit toujours, une des grandes questions que posent les endeuillés, c'est combien de fois faut-il aller au cimetière ou au columbarium 2 ans après? Mais je n'ai pas la réponse à ça. Moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que ça vous fait du bien d'y aller autant de fois que ça? Et puis évidemment, vous avez le cas énorme où là, il n'y a pas besoin d'être psychiatre. C'est que si 10 ans après, vous y allez 2 fois par jour, bah, moins de connaître le gars de la tombe d'à côté, comme le dit le livre, là, on voit bien qu'il y a un envahissement du défunt dans la vie du sujet. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça apporte d'aller visiter votre défunt 10 ans après 2 fois par jour?
Et là, comment vous faites pour aider quelqu'un dans ce cas-là?
Alors, là, on est dans ce que vous remarquiez tout à l'heure, pointé tout à l'heure, c'est l'excès de rituel de deuil. C'est-à-dire qu'il y a probablement quelque chose qui coince dans l'évolution. Je m'explique. Ça a marché au début. Il faut toujours comprendre qu'un rituel de deuil, ça a marché au début.
Et c'est ça le piège. C'est parce que c'est comme l'évitement. Si par exemple on évite une mémoire traumatique en buvant de l'alcool, le problème c'est que ça marche au début. Et le piège c'est qu'on pense que parce que ça marchait au début, ça marchera après. Et j'imagine que votre rôle, c'est d'aider l'endeuillé à être sensible au timing et à comprendre que c'est pas parce que ça a marché avant que ça marchera après. Ça me fait d'ailleurs penser à l'éducation des enfants. Il y a un truc qui marche très bien avec sa fille de 12 ans qui marchera pas avec sa fille de 17 ans. C'est un peu pareil, non?
Exactement. Mais vous n'avez pas cette dynamique d'un enfant qui vous entraîne au-delà
de vie,
vous.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est quelque chose qui vous entraîne quand même dans le passé. Alors, comment on fait? Il n'y a pas une seule règle, parce qu'il y a des tas de façons de maintenir des rituels de deuil très importants. Alors, le plus connu, c'est effectivement les visites archi-envahissantes au cimetière, mais le plus fréquent, ouais, c'est de garder tout intact à la maison.
C'est ça, ouais. Voilà. La maison devient un mausolée.
C'est ça, la maison devient un mausolée. Et là, on va... Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques qui sont aussi un peu thérapeutes dépendants, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va restaurer le sens de la vie, pas le sens de la vie philosophique, ouais, le sens de la vie éthologique.
Concret, quotidien.
Concret. Mmh. Si vous êtes là, c'est parce que vos aïeux sont morts, monsieur Pépin. Si je suis là, c'est parce que mes aïeux sont morts pour me laisser la place.
Ouais.
Sinon, ça ne marcherait pas. Toute naissance est une mort à venir. Donc ça, on essaie de faire réfléchir à l'endeuillé là-dessus. Et puis, ça malgré tout, ça se passe assez bien, parce que contrairement à ce qu'on croit, le deuil n'est pas un problème de pensée dysfonctionnelle, le deuil est un problème de gestion des émotions qui part dans le mur.
D'où la nécessité d'être accompagné.
Voilà. Mais on croit toujours que c'est très des représentations du deuil, que ça va être un débat très intellectuel, le deuil. Non, le deuil, c'est une seule chose, c'est comment vous faites pour souffrir moins. Voilà. Et donc, par rapport à l'excès de rituels de deuil, on va leur dire, bon, ok, mettons que vous passiez 40% de votre quotidien sur des rituels de deuil. Je regarde les photos, je range son bureau, je replace sa montre, je fais son lit. Ok, les vivants, vous en avez autour de vous? Oui, bien sûr, j'ai mes 2 autres enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai mes amis, j'ai mon club de bridge, j'ai mon club de poterie, ok. Donc tout ça, ça va utiliser 60% de votre temps et votre défunt va utiliser 40% de votre temps, oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous connaissiez quelqu'un qui consacre 40% de son temps au défunt et 60% de son temps à tout le reste?
Ouais.
Et, alors, c'est des exemples, il y en a beaucoup dans mon livre, j'en donne quelques-uns, mais généralement, l'optimisme, ce que j'appelle le présupposé optimiste de la vie, qui est qu'on va tous mourir et pourtant on est là à travailler, vous et moi, à parler, doit reprendre le dessus. Et s'il ne reprend pas le dessus, alors on va s'interroger sur d'autres problèmes, les inhibitions des activités de plaisir, c'est-à-dire ce qui fait que les gens ont abandonné des activités de plaisir, ou bien la question du désespoir. C'est évident que la veuve dont je vous parlais, on comprend quand même bien qu'à 66 ans, après 50 ans avec son mari, il y a quand même beaucoup de problèmes pratiques à régler.
Sûr, ouais.
Hein. Et ça, on l'oublie. Hein. Tout souvent, on dit l'endeuillé, va de l'avant, fonce, ne te retourne pas. Mais comment ne pas se retourner quand on vient de perdre les 4/5 de votre vie?
Parce que finalement, le pire, c'est ça, c'est ces phrases en l'air qui sont très blessantes, oui. Ces mauvais conseils, oui. Qui sont au fond dans le déni de la réalité du manque, au fond.
Oui, alors, dans le déni de la réalité, dans un appauvrissement spirituel et émotionnel de la culture occidentale, parce que moi j'ai travaillé à l'étranger, ouais. Notamment en Afrique, en Brousse, je m'en souviens très très bien, c'était extraordinaire. Ils avaient la mortalité infantile était de 4 enfants sur 10, l'espérance de vie ne dépassait pas 50 ans, mais vous aviez une prise en charge collective du c'est deuil et une prise en charge de la douleur et un accompagnement qui était extraordinaire. Où là, franchement,
on devrait s'en inspirer un peu.
Alors, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. Ouais.
Et il faut un village entier pour éduquer un enfant, c'est un proverbe chinois. On pourrait dire aussi, il faut un village entier pour aider à faire son deuil.
Alors, on sait bien que quand on regarde les facteurs protecteurs du deuil pathologique, du deuil prolongé qu'on a évoqué tout à l'heure, on sait bien que le soutien social a un rôle fondamental. Et ce soutien social n'est pas toujours repéré comme fondamental, alors qu'il est fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est que le soutien social, hein? Qu'est-ce que fait avec quelqu'un qui a une petite famille, par exemple, ou par exemple une grand-mère qui se retrouve veuve, etc. Le soutien social, c'est tout simplement de dire « Je suis là, je pense à toi, je ne peux pas vivre ce que tu vis.
Ouais. » Je ne peux pas me mettre à ta place, en fait.
Je ne peux pas mettre à ta place, mais je comprends ce que tu ressens, est-ce que je peux t'aider ? Voilà. Et cette notion d'aide, cette notion d'assistance, cette notion de non pas d'être en intrusion, mais d'être en accompagnement, non pas en donneur de leçons, mais en pudeur et en modestie, eh bien, on sait que ça, c'est le plus grand facteur protecteur du deuil pathologique.
Merci, merci beaucoup. Alain Sautreau, c'est passionnant. On va écouter Christine and the Queen, le bien nommé Aimer puis vivre.
Love, love, a wave, love without love. Tu m'as
C'était Christine and the Queen, Aimer puis vivre.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec le médecin psychiatre Alain Sautreau, spécialiste de l'accompagnement des endeuillés. On parle de votre livre, Alain Sautreau, Vivre après ta mort, psychologie du deuil aux éditions Odile Jacob. Et c'est passionnant de vous écouter, on comprend bien cette notion d'accompagnement, cette notion aussi de timing. Et vous parliez tout à l'heure, au début de l'émission, des rituels de deuil. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de cette notion d'étape du deuil? C'est une thèse très discutée, notamment de la psychologue Elisabeth Kubler-Ross. Est-ce que, grosso modo, vous y croyez, vous, aux étapes du deuil?
J'ai envie de vous dire, si je vous réponds si j'y crois ou pas, je vais être le énième qui donne son opinion.
Ouais.
Et moi, en fait, en tant que médecin, je suis pas là pour... Si, on peut en discuter entre nous autour d'un verre, mais moi, mon message, c'est pas de dire ce que je pense. Mon message, c'est de regarder l'évolution de la science et d'arriver avec des arguments.
Ouais.
Et j'imagine que ça peut être choquant pour ceux qui entendent ça, hein, mais il est clair que les stades de deuil n'existent pas.
Ah.
C'est prouvé. On avait déjà cette intuition-là
déjà,
depuis très longtemps.
Nommer les stades qu'on se
comprend. Donc, alors, vous avez plusieurs terminologies. Vous avez la terminologie à trois stades. Le plus connu, c'est à cinq stades, c'est-à-dire le choc, le déni, la dépression, le choc, le déni, le marchandage, la dépression et la recouvrance.
Ouais.
Le problème, c'est que, on va prendre un exemple très très simple qui va fixer les choses. Ça voudrait dire que si vous perdez un être cher, vous allez forcément avoir un moment de choc, un moment de déni et un moment de... Alors, marchandage, c'est tellement compliqué que ça a souvent été abandonné, mais de dépression.
Ouais. Bon. Puis d'acceptation, dans l'idée,
c'est ça. D'acceptation, ouais. Quand ça tourne bien, parce que c'est l'acceptation, ouais. Justement. Vous comprenez bien qu'il y a des études qui ont confirmé ce que nous savons tous. Quand vous perdez votre père, votre mère, d'une maladie épouvantable... Où vous l'avez vu perdre 40 kilos, où vous l'avez vu ne plus pouvoir parler, où vous l'avez vu souffrir avec des traitements qui ne marchent plus, où vous avez vu des escarres qui apparaissaient, où vous avez vu l'indifférence de la famille, de l'équipe soignante qui sait très bien que c'est perdu.
Ouais.
La famille, non seulement n'a pas de choc et de déni, mais attend ce moment de délivrance. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un moment de délivrance pour la famille. C'est que quand vous aimez quelqu'un, vous voulez plus qu'il vive ça. Vous voulez que ça s'arrête. Et donc, rien qu'avec cet exemple qui, quand même...
Qui est très convaincant, bien sûr.
Qui quand même concerne à peu près 30% des décès en France. Hein. 30% des décès sont des maladies chroniques, invalidantes, à fin lente.
Ouais.
Vous comprenez bien que les stades de deuil ne tiennent pas.
Ça, je comprends bien. D'ailleurs, je reconnais, quand vous parlez, le ton qui m'avait tant plu dans votre livre, hein, « Vivre après ta mort », mais je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que, quand même, si on arrête ces stades si précis, il n'y a pas l'idée... quand même que le manque très douloureux va muter en une nostalgie et que cette nostalgie va laisser de la place à une belle mémoire.
Eh bien, justement, vous apportez de l'eau à mon moulin. C'est que vous venez d'utiliser ce terme de manque qui est le symptôme cardinal du deuil.
Et qui n'est pas dans les stades du deuil. Voilà, c'est ça.
Qui n'est pas dans les stades du deuil. C'est-à-dire que Elisabeth Kubler-Ross a raté cette énormité. Et pourquoi? Pour des raisons historiques qui n'intéressent pas les gens. Elisabeth Kubler-Ross était un médecin de soins palliatifs. Elle accompagnait le mourant. Et ces stades de deuil n'ont pas été décrits pour décrire le deuil. Les stades de deuil ont été décrits pour l'annonce d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'elle disait à quelqu'un, vous allez mourir.
D'accord, voilà. Je comprends. Je comprends.
Et une des énigmes épistémologiques, c'est que en France, on a retenu Elisabeth Kubler-Ross, qui est la référence,
ouais.
Mais le véritable génie qui, lui, avait décrit parfaitement le deuil, qui avait dit il y a des étapes, mais ce sont des étapes qui se chevauchent, c'est difficile de faire une cartographie précise, et qu'il a fait bien avant Kubler-Ross, c'est 1968, c'est John Bowlby, c'est lui le génie.
Bien sûr, le thérapeute de l'attachement.
Voilà, lui le génie.
Celui qui a tant inspiré Cyrulnik notamment.
Exactement, et tant d'autres.
Et d'ailleurs, on imagine bien que dans votre travail d'accompagnement, vous partez des théories de l'attachement. Parce qu'au fond, c'est ça qui est douloureux. C'est que le lien est brisé.
Exactement.
Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même que la question du deuil, c'est de réussir à trouver une façon de faire encore vivre ce lien, peut-être non plus dans l'extériorité du vécu partagé, mais au fond, dans l'intériorité spirituelle.
Alors, c'est très intéressant la façon dont vous le formulez. Vous dites, le deuil, c'est essayer de faire vivre. Mais Charles, que vous le vouliez ou non, votre défunt, il n'y a pas besoin d'essayer de le faire vivre. Il est en vous. L'empreinte l'empreinte, qui est la caractéristique de l'attachement. L'empreinte qui est quand même l'objet d'un prix Nobel de médecine, quand même. Ouais. La découverte de l'empreinte, c'est un prix Nobel de médecine. Cette empreinte, que vous le vouliez ou non, elle est en vous.
Elle est là.
Et donc la question
est là. Notre relation est là.
Notre relation, elle est là, elle est intacte, elle est pour toujours. On le voit bien dans les personnages célèbres, on se réfère toujours, vous vous référez aux philosophes, ouais. On parle de De Gaulle tout le temps.
D'ailleurs, on faisait hier matin, ici, une émission sur Jacques Brel, et les gens racontaient qu'ils vivaient encore avec Brel, même mort.
Bien sûr, alors les fans endeuillés, c'est encore une autre question, ouais. Parce que c'est une question quasiment de laboratoire. Ouais. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer de faire vivre le souvenir ou le défunt, ouais. Vous l'avez en vous. C'est de vous rendre compte de quel point il est en vous.
C'est très intéressant. Donc c'est presque le contraire de ce que le bon sens imaginerait. Le bon sens pourrait imaginer qu'il faut se libérer de quelque chose qui est trop présent. Et vous dites au contraire, mais non, il faut bien prendre la mesure que cette présence, elle est là.
Mais c'est pas vous qui, dans votre dernier livre, vous écrivez « Je me souviens, donc je suis ».
Si, si. Ça, je dis que c'est Bergson qui dit ça.
Voilà. Je trouve que c'est une très belle phrase.
C'est bien l'idée que finalement, la puissance de la mémoire permet de vivre le deuil.
Alors, sauf que dans le cas de l'attachement, c'est plus que la mémoire, c'est l'empreinte.
Ah oui. C'est quoi le prix Nobel que vous évoquiez ?
Corinne Lawrence.
Ah oui, c'est ça, bah oui.
Corinne Lawrence, qui en fait montre un phénomène qui semble presque absurde, hein, ouais. Chez les ovipares, et qui va être ensuite décliné sur ouais. Toutes les espèces. Et pour vous dire, par exemple, que j'ai parlé tout à l'heure de la naissance de l'humanité, 70 000 ans, j'ai écrit l'Homo sapiens, les premières tombes, on sait que chez les grands mammifères supérieurs, à savoir les gorilles, les éléphants, et on pense aussi les dauphins, ouais. Eh bien, il y a des formes d'attachement et des rituels de deuil. Et vous avez des éthologues que vous pourriez, vous ennuieriez pas du tout
non, avec les étudiants,
qui racontent très bien cette notion d'empreinte collective autour d'une espèce et autour d'un leader.
Ah, c'est passionnant. Alors par contre, ce que les éléphants et les grands primates ne font pas, c'est raconter des histoires, et je vous propose d'écouter à ce sujet la rabbine Delphine Horviller.
Je crois que au moment où le deuil surgit, où la mort est là, on perçoit tous l'arrachement, comme s'il y avait une déchirure dans la fabrique de la vie qu'on pourrait jamais recoudre. Et le seul moyen d'opérer une reprise, une couture dans ces moments-là, c'est effectivement de raconter des histoires dont les générations suivantes pourront s'emparer. En fait, on se transmet un tissu qu'on va pouvoir repriser, recoudre dans la façon dont on parle de celui ou de celle qui nous a quittés.
Alors Alain Sautreau, dans votre accompagnement des endeuillés, ça vous parle ces mots de reprise, recoudre, raconter ?
Alors oui et non. Oui, dans le sens que Delphine Horviller a tout à fait raison, elle est rabbin, hein, je pense que vous citez son
livre, Vivre avec les morts, bien sûr.
Voilà, elle est rabbin et donc on la sollicite en deuil aigu pour transformer ce moment en quelque chose d'assez positif. Donc elle intervient dans le deuil aigu, et en fait, toutes les cultures ont cette tradition d'hommage, hein, notamment ouais. Il y a des funéraires laïques qui sont faites autour de... souvent à la maison, j'ai un ami qui a fait ça, qui est totalement non-croyant, il a réuni les amis proches autour du cercueil de son père, et il a fait prononcer par ceux
un
qui voulaient...
Un tour de parole, quoi.
Voilà, par ceux qui voulaient seulement, hein, toujours, on ne force pas. Donc... Le talent de Madame Horviller, c'est effectivement, elle le raconte très bien, d'arriver à trouver des mots qui apaisent. Là, visiblement, elle est une très bonne psychothérapeute de deuil aigu. Mais moi, j'interviens pas du tout là. Parce ouais. que moi, je fais confiance totalement dans le corpus social où sont les gens, social ouais. ou micro-sociétal. Et moi, je suis médecin. Ouais. Moi, je m'intéresse à quand ça tourne mal. Et donc, j'interviens beaucoup plus tardivement. Mais en revanche, en deuil aigu, parmi les choses qu'on me les coups de fil les plus urgents que je reçois et très proches du défunt, c'est faut-il dire la vérité ouais. dans le cas des suicides, dans le cas des homicides, faut-il faire participer les enfants aux obsèques, je ne supporte pas un tel, mon beau-père qui a toujours pourri la vie de mon mari qui s'est suicidé, je ne le supporte pas, qu'est-ce que je dois faire, et vous vous doutez que là il faut plus de 30 secondes pour pouvoir y répondre, mais voilà bien des sûr, questions ouais. de deuil aigu dans lesquelles on va nous essayer d'apporter un chemin qui n'est pas qu'on n'impose pas, mais on va essayer de mettre les émotions en dynamique. Voilà.
Je voudrais faire réagir à une phrase de François Cheng dans L'éternité n'est pas de trop. Ce que les morts laissent aux vivants, écrit François Cheng, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte. C'est la manière pour eux de ne pas succomber à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, une des façons dont on soigne les idées suicidaires de l'endeuillé sont très particulières. C'est rejoindre le défunt. C'est pas me suicider parce que ma vie est foutue, elle est nulle, je suis le dernier des derniers. C'est rejoindre le défunt. Et une des questions qu'on pose et qui marche ma connaissance tout le temps, c'est de leur dire il vous aimait, il ou elle vous aimait beaucoup. Oui, bien sûr, c'est l'histoire de ma vie, très bien. Il voulait ça pour vous ?
Ah oui, c'est ça.
Il voulait vous suicider après sa mort ? Et vous, quand vous mourrez et que vous aurez vos enfants, vous leur direz, mon fils, ne survis pas après ma mort. Je mérite que tu me rejoignes. Ça ne tient pas. Quand je disais, le deuil est une histoire d'amour, l'amour, ça a quand même des règles. Et les règles, c'est la bienveillance, c'est l'altruisme, c'est l'avenir, c'est l'épanouissement. C'est pas la mort. La mort, c'est génétique. On naît, on va mourir. Vous allez mourir, Charles. Moi, je vais mourir. Vos enfants vont mourir, les miens aussi. Si vous voulez pas ça, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que j'appelle le présupposé optimiste. Bizarrement, cet aspect-là est peu retenu, c'est que la vie, ça se prend telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit.
Bien sûr, c'est ça que vous apprenez aux endeuillés.
Alors,
c'est comme ça, quoi.
Oui, mais
c'est
quand vous dites présupposé optimiste à un endeuillé, vous dites, ça se voit, vous n'avez pas perdu quelqu'un de cher. Bien sûr que j'ai perdu des gens chers. D'ailleurs, si je me suis autorisé à parler du deuil, c'est parce que j'en avais fait l'expérience et je me rendais bien compte des carrefours qu'il pouvait y avoir. Sinon, ça aurait pu être impudique. Mais la question de la vie se prend telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Et dans la vie, il y a la mort. Et vous êtes équipé.
C'est le message principal, tout à fait.
Vous êtes équipé pour traverser cette épreuve.
Merci Alain Sautreau, c'était passionnant de vous écouter. On retrouve cette idée de la ressource interne chez l'endeuillé que vous essayez de faire réveiller dans votre livre « Vivre après ta mort, psychologie du deuil » aux éditions Odile Jacob. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. J'aurais envie de dire « cache, tendre ». Cache et tendre, psychoéducation, et faire sentir que la puissance de la vie est d'accepter la mort et d'apprendre à vivre avec le deuil. On a aussi entendu, bien sûr, que souvent vous mettez l'endeuillé en situation. Qu'est-ce qu'aurait aimé cette personne ? Vous le laissez comprendre et entendre que s'interdire d'être heureux, c'est probablement la pire des façons de respecter le défunt. Merci beaucoup Alain Sautreau.
Merci à vous.
C'était très instructif et très touchant de vous écouter. Cette émission a été préparée, très bien préparée, merci beaucoup Estelle, par Estelle Gap, réalisée toujours aussi excellemment par Maria Pasquet, avec aujourd'hui à la technique Corentin Rouchy et à la programmation musicale Valentine Chedebois, qui a eu une excellente idée avec Aimer puis vivre de Christine and the Queen. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin dans la caverne de France Inter à 9h exactement, sous le soleil éternel de Platon.